Sermon XXV, le merveilleux amour de Dieu pour l'humanité prononcé par Stephen Crispassin. Martins le Grand, le 9 novembre 1690. Il est de notre grand souci, tant que nous sommes dans ce monde, de promouvoir la gloire de Dieu, de travailler à notre propre salut, de nous efforcer, autant qu'il est en nous, d'être conscients, et d'aider les uns les autres à être conscients, de l'amour de Dieu pour nous. C'est la seule chose qui puisse nous donner un véritable réconfort, avoir le sentiment de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, le merveilleux amour de Dieu pour l'humanité en Jésus. Il n'y a rien de plus certain que ceci, nous sommes tous participants de l'amour de Dieu, qui nous est communiqué chaque jour, et nous ne vivons pas un jour sans lui. Cependant, si nous n'y prenons garde, nous pouvons passer de nombreux jours sans lui, et sans le sentiment réconfortant de cet amour. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de fils et de filles des hommes manifestent dans leur vie si peu d'amour pour Dieu, parce qu'ils ont si peu le sentiment de son amour pour eux. Car l'apôtre Jean, qui avait acquis une grande connaissance et une grande expérience dans le christianisme, a déclaré clairement que la raison de l'amour que nous avons pour Dieu, c'est qu'il nous a aimés le premier, et je ne crois pas qu'un. Et quant aux bénédictions temporelles dont nous jouissons dans cette vie, la santé et la force, notre souffle même, notre existence et notre bien-être, qui se prolongent chaque jour et chaque heure, elles proviennent de l'amour de Dieu pour nous, et le prolongement de nos vies, et le fait qu'il nous accorde des occasions pour le bien de nos âmes, sont des signes évidents de l'amour et de la bienveillance de Dieu à notre égard. Là où ces choses ne sont pas prises en considération et tenues en estime, les hommes vivent comme les bêtes qui périssent, et ne tiennent aucun compte de celui qui les a faits. Mais ils persistent à lui désobéir, déshonorant son grand nom et amassant la colère sur leurs propres âmes. Et ainsi en est-il de tout homme, tant qu'il demeure dans son état et sa condition naturelle, car il y a dans tout homme, par nature, la semence et la racine de tout péché et de toute rébellion contre Dieu, qui pousse l'homme à rendre le mal à Dieu pour le bien qu'il nous fait. Et je crois que nous sommes tous conscients, dans une certaine mesure, de la dépravation qui s'est abattue sur toute l'humanité, de cette inimitié contre Dieu et de cette aversion qu'ont les hommes à faire la volonté de Dieu. Et en tout homme se trouve l'impuissance et l'incapacité de réformer sa conduite, de changer son cœur, d'abandonner ses inclinations corrompues et vicieuses, sans l'aide et l'assistance divine de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Or ceux qui sont ainsi conscients de leur éloignement naturel d'avec le Seigneur sont aussi conscients que le temps qu'ils ont ici est le seul temps qui leur est donné pour se préparer et être rendus aptes à ce royaume éternel que nous voudrions tous posséder. Combien cela devrait-il affecter l'esprit de chacun, afin que tant qu'il a du temps, il le prie et l'emploie bien, et parvienne à un sentiment intérieur de l'amour de Dieu, de sorte qu'un amour pour Dieu se relève à nouveau dans son cœur. Car les hommes ne seront jamais obéissants à Dieu tant qu'ils ne l'aiment pas, et ils ne l'aimeront jamais tant qu'ils ne seront pas sensibles à son amour pour eux. Quelle est donc la voie, quel est le moyen par lequel Dieu se fait connaître aux fils et aux filles des hommes ce moyen et cette voie que chacun doit embrasser? Quel est le chemin par lequel chacun doit s'y familiariser et y exercer son esprit, afin que nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu, et connaître, par un sentiment expérimental et sensible, la bonté de Dieu envers nous. Et en vérité, mes amis, ceux qui entendent consacrer leur temps et s'exercer à considérer la miséricorde et la bonté de Dieu ont de quoi faire pour toute leur vie. Considérer et contempler les multiples miséricordes de Dieu répandues sur eux, car nous tenons de lui la vie et le souffle, lui à qui le monde entier obéit et rend service excepté l'homme déchu. Dieu qui a fait toutes les créatures vivantes, nous a créés et nous a conservés, il a usé envers nous de longanimité et de patience jusqu'à présent, et il se soucie encore de nous faire du bien, ce qui se manifeste clairement par les invitations et les promesses qu'il nous a faites, et par les opérations de son Saint-Esprit qu'il nous a fait connaître. Car qui y a-t-il dans cette assemblée que Dieu n'ait rendu sensible aux offres de sa grâce et à ses invitations à la repentance et à la réforme, afin que ceux qui vivent dans le relâchement et la vanité du monde se tournent vers le Seigneur de tout leur cœur et considèrent leurs voies et leurs actions. Dieu a attendu pour faire grâce aux fils et aux filles des hommes, et sa miséricorde et sa patience ont dépassé toute patience humaine, bien au-delà de la patience que vous avez jamais accordée à qui que ce soit. Ce que le Seigneur vous a accordé, je vous en prie donc, dans l'amour de Dieu, que cette considération pénètre profondément vos esprits, afin que vous soyez touchés par la bonté de Dieu, par sa patience envers vous et par sa longanimité, alors même que vous avez péché contre lui. Mais certains diront, comment le saurais-je? De quelle manière puis-je faire l'expérience de cet amour de Dieu pour moi? Comment puis-je être certain que le Seigneur m'aime? Mes amis, ce n'est pas seulement une bonté temporelle dont nous jouissons de la part de Dieu, ce n'est pas seulement le prolongement de nos jours qui est un signe évident de l'amour de Dieu pour nous. Mais il en existe une démonstration et une manifestation, universellement étendue aux fils et aux filles des hommes, en ce qu'il a semé sa parole en eux, et a semé sa vérité et sa grâce dans leur cœur, de sorte que tout homme, si méchant, si insensé et si vain qu'il soit, a pourtant bien des fois des avertissements et des reproches dans son propre cœur. Je le sais, et je n'en doute pas, vous le savez aussi, Considérez d'où provient le principe qui vous arrête dans une voie de péché, vous reprend et vous réprimande lorsque vous péchez contre le Seigneur. Si vous y prêtez attention et y réfléchissez, vous trouverez qu'il procède de Dieu. Cela vient de lui, et de lui viennent notre vie et notre souffle. Dès lors, les hommes devraient être incités à recevoir la grâce de Dieu, la faveur et la miséricorde que Dieu leur a accordées en vue de leur salut. L'Écriture nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si vous avez quelque bien, il est venu par Jésus-Christ, et si vous avez quelque vérité, elle est venue par Jésus-Christ, qui est la source de la vérité et la source de la grâce de Dieu. C'est par lui que Dieu s'est fait connaître aux fils et aux filles des hommes. C'est le Christ seul que Dieu a établi pour être médiateur entre Dieu et l'homme, afin qu'il soit le ministre d'une alliance éternelle, dans laquelle nous sommes introduits avec Dieu. Ainsi maintenant, les hommes devraient considérer la voie et le moyen que Dieu a ordonné pour leur rédemption, à savoir qu'il a donné Jésus, ce grand don ineffable de son amour et de sa bonté aux fils et aux filles des hommes. Voici la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Comment viennent-elles ? Elles viennent dans mon cœur. Quoique le péché, les convoitises et les corruptions aient peut-être place en beaucoup, le Christ a aussi sa place, il a été mis au rang des méchants, et compté parmi les transgresseurs, il était comme la semence qui repose sous les mottes, et qui est la plus petite de toutes les semences. Pourtant, lorsqu'elle sort de terre, elle s'élève ou étend au loin ses branches et porte du fruit. Cet amour de Dieu, cette sainte vérité immuable, est en chacun. Pourquoi donc tout homme ne serait-il pas gouverné et dirigé par elle ? Mais certains diront, la vérité vaut-elle mieux que le mensonge, et la grâce vaut-elle mieux que la convoitie et la corruption ? Vous pouvez le voir par la lumière qui se découvre au-dedans. Que chaque homme se tourne intérieurement vers la grâce de Dieu, qu'il se tourne vers cette lumière qui se manifeste dans la créature, et qu'il voit ce qu'elle fera pour nous. C'est là la doctrine avec laquelle l'apôtre a été envoyé. Il a été envoyé avec une commission pour détourner les hommes des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Pourquoi l'a-t-il fait ? C'était afin que les hommes obtiennent la rémission, la délivrance de la servitude du péché, et qu'ils viennent à un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi cet évangile est le même qu'il a toujours été, quoique les hommes aient bien des manières de prêcher, et diverses méthodes et voies de déclarer les vérités de l'évangile. Béni soit Dieu, la doctrine apostolique est de nouveau prêchée, et le bienheureux évangile est accompagné de la même puissance qu'autrefois, et peut produire le même effet, et que cela puisse être la part de chacun de vous, tel est le but de notre labeur. Et nous n'avons en vue que deux choses. Premièrement, décharger notre conscience devant Dieu, qui nous a donné sa parole à prêcher, pour détourner les hommes des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, afin que nous nous gardions exempts du sang de tous les hommes. Deuxièmement, un autre but est le désir que Dieu a mis dans nos cœurs, que tous les hommes partout soient sauvés, telle est la volonté de Dieu. Si certains sont damnés, c'est leur propre volonté, et la volonté du diable. La volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance et soient sauvés éternellement. Or, dans cette œuvre de votre salut, nous voulons avoir égard à celui qui nous a envoyé prêcher l'évangile éternel, et nous acquitter fidèlement, et être manifesté dans vos consciences, afin que les bienfaits de l'évangile deviennent vôtres, afin que vous répondiez au dessein de Dieu en envoyant le Christ comme sauveur de l'humanité. Vous devez vous détourner du péché pour vous tourner vers Dieu, et alors vous trouverez la bénédiction qui vient par Jésus, laquelle est de détourner chacun de ses mauvaises voies. Vous pouvez lire cela dans un livre, et vous pouvez aussi le lire clairement dans vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ vous a donné la lumière pour distinguer le bien du mal. Si vous faites le bien, vous pouvez avoir sur vous-même une réflexion réconfortante, et ce sera votre joie, le témoignage de votre conscience à ce sujet. Mais si vous faites le mal, quand bien même tous les hommes vous justifieraient et vous loueraient, vous serez pourtant condamné en vous-même, de sorte que vous avez en vous ce qui distingue entre des choses différentes par leur nature et leur genre, et vous avez un petit éclaircissement par la connaissance et l'intelligence que vous. Si, après l'avoir su, vous persistez dans une voie qui déplaît à Dieu, il finira par être trop fort pour vous et vous précipitera dans l'abîme de sa colère pour toute l'éternité. Après que les personnes ont été satisfaites et éclairées par la lumière du Christ, et qu'elles viennent à l'expérience des choses en elles-mêmes, elles aimeront la lumière et marcheront dans la lumière. Mais il y en a beaucoup en ce temps qui ont abondamment lu les Écritures et qui pourtant continuent encore dans une voie de péché. Elles ne peuvent aimer la lumière qui les reprend. Celui qui fait le mal est la lumière, et l'aurore du jour est pour lui comme l'ombre de la mort, et elle n'apporte que condamnation sur de telles personnes, de sorte qu'elles n'aiment pas la lumière, bien qu'il soit évident qu'elles l'ont et en jouissent. Et elle sera leur condamnation, qu'elles le veuillent ou non, si elles n'aiment pas la lumière et ne l'embrassent pas, elle ne sera jamais leur salut. Dieu a donné le Christ pour être une lumière pour les gentils, et son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, L'apôtre Jean vous rapporte la généalogie de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie de la parole éternelle était la lumière des hommes. De quels hommes parlez-vous? Je réponds, il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il étend sa lumière à tout homme, mais elle est condamnation pour tout homme tant qu'il demeure pécheur contre Dieu. Voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Or, tous les hommes sont par nature morts dans les péchés et les offenses. Après que nos premiers parents furent tombés dans le péché, ils furent morts à Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsqu'ils eurent mangé du fruit défendu, ils ne moururent pas en apparence extérieure, mais ils moururent quant à la communion qu'ils avaient avec leur Créateur. Dans cet état de mort gisent tous les fils et les filles d'Adam. Mais comme le dit notre Sauveur, bien qu'ils soient morts, ils vivront de nouveau. Le Christ est le Seigneur venu du ciel, un esprit vivant. La foi en Christ est la même qu'elle a toujours été, malgré les nombreuses formes de culte parmi les fils des hommes, certaines établies par Dieu, d'autres établies par les hommes. Pourtant, au milieu de tout cela, l'objet de la foi est le même, et il demeure le même. Le Christ, objet des fois, est le même, mais les fois ne le sont pas. Il y a une foi selon laquelle le Christ est né d'une vierge, a été crucifié, est ressuscité et est monté au ciel le Fils de Dieu. C'est une foi morte en des événements historiques. Et puis il y a une foi qui dépasse l'adhésion à l'histoire rapportée dans la Bible, une foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole qui est dans votre cœur et dans votre bouche, afin que vous lui obéissiez. La foi vient quand vous êtes conduit entendre et obéir par l'Esprit de Dieu dans votre cœur, c'est cette foi dont parle la Bible, une foi par révélation. La foi dans les promesses de Dieu est nécessaire pour les obtenir, la foi dans la puissance de Dieu pour produire le nettoyage, la purification, la sainteté et le salut est nécessaire pour réaliser tout partie de ce qui précède. Au chapitre 11 des Hébreux, ce petit livre des martyrs, l'apôtre vous donne un catalogue des grandes choses qui ont été accomplies par la foi du peuple de Dieu. Il commence par Abel. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, par lequel il reçut le témoignage qu'il était juste, Dieu rendant témoignage à ses dons, et par elle, bien qu'il soit mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit point la mort. Et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Puis l'apôtre passe à Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse. Et que dirai-je encore, dit-il, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus forts de leur faiblesse, mirent en fuite les armées des étrangers. Toutes ces grandes et nobles choses furent faites par la foi, c'était le regard de leurs âmes tournées vers le Christ, le médiateur entre Dieu et l'homme, c'était leur confiance et leur dépendance envers Dieu par Christ, le médiateur, qui les soutenait et les maintenait dans tout ce qu'ils faisaient et souffraient. Cette foi est encore la même. Il y a dans le monde bien des fois, mais elles ne se révéleront être que la foi des hypocrites. Certains ont une foi selon laquelle, s'ils font telle ou telle œuvre astérisque, disent-ils, vous pouvez confier vos âmes à ces bonnes œuvres, mais ce n'est pas la foi d'Abraham, le père des fidèles. D'autres, appelés chrétiens, sont allés si loin dans la doctrine des mérites qu'ils pensent pouvoir faire assez pour leur propre salut, et pour celui de leurs amis et de leurs proches aussi, et qu'il peut même rester un surplus de mérite, dont d'autres pourraient bénéficier, par le mérite de leurs œuvres et de leurs efforts au-delà de leurs devoirs. Mais ce n'est pas la foi d'Abraham et des autres saints, par laquelle ils accomplirent de tels prodiges dans le monde. Je ne voudrais pas que les hommes se confient le moins du monde dans leurs propres œuvres pour le salut, mais qu'ils se confient en Christ seul, qui est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Astérisque, on croit que le rituel et la cérémonie sauvent les âmes, ce qui sont des œuvres minuscules, extrêmement faciles. Le baptême d'eau, manger du pain, boire du jus de raisin, réciter une prière spéciale, sont des doctrines ou œuvres fondamentales dans la chrétienté aujourd'hui, et pourtant ce ne sont que des rituels païens, inventés par la bête qu'est l'homme, cherchant une couverture pour demeurer dans sa vie de péché égoïste, immoral, impur, avide, vaine. Objection, mais certains objecteront que l'on nous enseigne la doctrine de la foi en Christ, et la justification par lui. Eh bien, pour ma part, ma langue tombera plutôt de ma bouche que je ne m'oppose à la doctrine de la justification par la foi en Christ. Mais laissez-moi vous dire, on peut en faire un mauvais usage. Si un homme croit qu'il est justifié par la foi en Christ, et pourtant sait, dans sa propre conscience, qu'il est condamné, il croit un mensonge, il est séduit et trompé. Un homme ne peut être justifié par le Christ lorsque l'Esprit du Christ le condamne. Un tel homme, lorsqu'il viendra poser sa tête sur son oreiller de mort, toute sa foi s'envolera. J'ai rencontré quelques cas des cas lamentables de personnes appelées chrétiens qui ont fait profession de religion et qui, à la fin, ont posé leur tête dans la tristesse. Si c'est là votre erreur, considérez-le pendant que vous en avez le temps, afin que vous puissiez mourir en paix. Nous sommes justifiés et purifiés par la foi en Christ, mais nous ne sommes pas immédiatement justifiés ni immédiatement purifiés lorsque nous croyons pour la première fois. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, cela signifie-t-il que Christ encourage le péché? Certainement pas. Galates 2:17. Remarquez, en cherchant, c'est-à-dire en attendant le Seigneur, on nous montre les péchés de notre cœur. Après que ces péchés sont ôtés, nous sommes sanctifiés et justifiés en même temps. Il n'y a pas de justification tant que notre foi obéissante en Christ n'a pas pour résultat qu'il nous nettoie, nous rachète, nous purifie, nous sanctifie et nous perfectionne. Or, la proposition et l'offre de l'amour de Dieu envers l'humanité ont toujours comporté cette limitation, que chacun dans le monde doit observer. Si un homme espère être sauvé par Christ, il doit être gouverné par lui. Il est contraire à toute raison que le diable gouverne un homme et que Christ soit son sauveur. Toute la teneur du Nouveau Testament s'y oppose, je vous prie de le lire aussi souvent qu'il vous plaira, car c'est un bon exercice. Vous trouverez que la vraie foi du chrétien est celle-ci, celui qui a la foi en Christ subit en lui une opération qui nettoie son cœur, purifie et purge sa conscience des œuvres mortes, afin qu'il serve le Dieu vivant, alors même qu'auparavant il avait été serviteur du diable, cette foi le fera quitter son ancienne servitude et le placera sous l'influence d'une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus. L'apôtre expose les divers états par lesquels il était passé, « J'étais autrefois vivant sans la loi ». Il se croyait un homme vaillant, un homme d'intelligence qui avait fait des progrès parmi les Juifs. J'étais vivant, ayant égard à cette loi qui aurait dû être mon gouverneur. Paul connaissait bien la loi. Il pensait aussi l'observer correctement. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Il avait lu la loi, le commandement bien des fois, et il en avait entendu la lecture à la synagogue. Mais il y eut une venue du commandement telle qu'il lui était ordonné par la voix du Seigneur au-dedans de lui qu'il ne connaissait pas. Il y eut une écriture de la loi de Dieu dans son cœur, lorsqu'il en vint à cette œuvre intérieure en lui, où était la vie qu'il menait alors. Le Seigneur nous montre les péchés secrets de notre cœur, dont nous n'avions pas conscience jusqu'à ce que sa lumière les révèle, et, avec sa conviction, il nous commande aussi. Quand le commandement vint, le péché reprit vie, quand il fut convaincu par la voix du Seigneur, sa conscience du péché en lui reprit vie, et je mourus. Réalisant combien il était vraiment pauvre en esprit, il pleura profondément sur son état. Son orgueil mourait. La racine du péché, son esprit charnel, est détruite. C'est le ministère de condamnation, c'est ainsi que l'on meurt à la loi par la loi. Il y avait une vie de profession religieuse qu'il menait auparavant, mais il fut terrassé par la puissance du commandement. Elle le jeta à terre comme un homme frappé à mort. Lorsqu'il était dans un état d'homme frappé, il découvrit en lui cette loi qui était la loi du péché et de la mort. Et cela causa en lui un combat, une guerre. Je trouve une loi, dit-il, que lorsque je veux faire le mal est présent avec moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres. Cela l'amena alors à la pauvreté d'esprit, à la conscience de sa misérable condition, et il s'écrie, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, or certains aujourd'hui sont comme l'apôtre, ils ont une loi dans leurs membres qui combat contre la loi de leur esprit, le bien qu'ils voudraient faire, ils ne le font pas, et ils ne peuvent aller plus loin. » Mais l'apôtre Paul alla plus loin, bien que, dans cet état, il ne connût pas encore la délivrance, il avait toutefois la foi qu'il serait délivré et qu'il ne serait pas misérable tous ses jours. Ainsi, après avoir conduit les Romains à travers les divers états par lesquels il était passé, il les amène à un état plus avancé, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Et maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment le savons-nous? Ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Paul était donc parvenu à cet état sanctifié, cet état de liberté et d'affranchissement, dans lequel Jésus-Christ amènera tous ceux qui croient en lui. Les saints, hommes d'autrefois, ont fait l'expérience et trouvé une grande lutte et une guerre dans leur propre cœur, tous désiraient faire le bien et garder une conscience sans reproche envers Dieu et envers les hommes, mais il y avait une loi du péché qui combattait dans leurs membres. Si nous lui cédons, elle conduit au péché et à la mort, mais si nous nous livrons à la loi de l'esprit de vie, il y a une puissance qui émane du médiateur, qui transportera l'âme hors du royaume des ténèbres et du péché, dont le diable est le prince, et la fera entrer dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Il faut qu'un véritable changement s'opère en nous avant que nous puissions venir à Dieu, et à la communion et à la fellowship avec Dieu, qui seuls peuvent rendre l'âme heureuse. Que l'exercice de chacun de nous soit d'adorer et de magnifier la grande miséricorde et la bonté de Dieu, en ce qu'il n'a pas retiré son esprit de vous, mais à placer un avertisseur dans vos seins, qui vous appelle à cesser de faire le mal et à apprendre à faire le bien, et à considérer que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà un péché, je pourrais le commettre, voilà une tentation devant moi, mais je sais qu'il y a un appât et un hameçon. Je peux l'avaler si je le veux, mais si je le fais, ce sera ma ruine. Ai-je envie d'aller à la mort éternelle et d'avoir ma part avec les menteurs et les méchants dans le royaume des ténèbres, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, ou voudrais-je avoir ma part avec les saints et les anges? Si je veux avoir ma part avec les bienheureux dans le royaume de Dieu quand je mourrai, je dois marcher dans la voie qui y conduit, mais la porte est étroite et le chemin resserré, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Travaillez donc à être de ce petit nombre. Objection. Mais à quoi sert notre labeur, diront certains, si nous ne pouvons rien faire de bon, pas même penser une bonne pensée? À quoi sert notre labeur? Tous les travaux et tous les efforts du monde entier ne peuvent rendre un homme heureux. Je parle maintenant à un peuple à qui Dieu promet l'aide et l'assistance de sa grâce et de son esprit, et les visitations de son amour et de sa puissance. Vous devez maintenant vous efforcer de faire quelque chose. Si un homme s'efforce, avec l'aide de Dieu, il peut faire beaucoup de bien et éviter beaucoup de mal. Quoique tous nos efforts, par notre propre puissance et notre propre force, ne signifient rien, ils sont pourtant requis par Dieu, et en les joignant à sa grâce et en saisissant les occasions, avec l'assistance divine, nous pouvons faire ce que Dieu acceptera. Mais si un homme fait, quoi que ce soit par sa propre puissance et sa propre force, que ce soit prière, écoute, lecture, méditation ou tout autre devoir, autant vaudrait ne pas l'avoir fait. Je vous considérerai comme ce que Dieu a suivi de sa grâce et de la manifestation de son esprit. Cela est donné à tout homme pour le profit de tous, et tout homme a l'occasion d'y coopérer, mais il faut travailler tant qu'il fait jour, car la nuit vient où nul ne peut travailler. Que chacun de nous, maintenant que nous sommes réunis, s'efforce d'être sensible à l'amour de Dieu pour nous, et de l'aimer par-dessus tout, et d'exprimer notre amour par une obéissance volontaire et persévérante, afin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que nous lui offrions des louanges vivantes par Jésus-Christ qui nous a aimés, et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Sermon XXV. Le salut du péché par Jésus-Christ prononcé par Stephen Crisp à Devonshire le 9 août 1681. Il est une doctrine répandue dans le monde, selon laquelle aucun homme, par aucun moyen, ne peut jamais être affranchi du péché dans cette vie. Cela est universellement admis parmi presque tous les chrétiens, dans toutes les églises, et bien qu'ils diffèrent autant qu'on voudra sur d'autres points, ils s'accordent sur celui-ci, de sorte que cette doctrine a pris une emprise dominatrice sur le monde, et il est tenu pour une grande illusion, une hérésie et une erreur énorme que quiconque en met en question la vérité. Or, tant qu'un homme est dans cette croyance qu'il est impossible de vivre sans péché, et qu'il est impossible d'abattre le royaume de Satan dans une seule âme au monde, comment les hommes peuvent-ils espérer ou croire que la justice doit prévaloir dans le cœur d'un seul homme? Il n'y a ni roi ni mendiant, ni évêque ni ministre de l'Évangile, sans que le diable ne doive exercer sur lui un règne et un gouvernement tant qu'il vit dans le monde. Tant que cela est cru, il n'est pas possible que la croyance contraire prenne place. C'est folie de penser que je dois être sous le règne et le gouvernement de Satan si je suis sous le gouvernement du Fils de Dieu. Et c'est une folie plus grande encore de dire que le Christ et le diable sont tous deux mes gouverneurs et mes chefs. C'est une extravagante sottise et une démence que de parler de cette manière. Cette croyance prévaut sur tous les hommes, sur les sages, les puissants, les nobles et les savants, qu'ils ne pourront jamais être délivrés de la puissance du péché dans ce monde, mais que le diable les conduira au péché chaque jour, que les hommes soient pourtant sobres, qu'ils soient pourtant abstinents dans leur vie, qu'ils passent pourtant tant d'heures par jour dans la prière, qu'ils viennent aux réunions et entendent des sermons et les écrivent et les répètent et fassent ce qu'ils veulent. Voici une barre d'incrédulité qui se dresse sur le chemin, qui fait que les hommes se détournent. Et c'est pourquoi ils cherchent à l'obtenir par un autre moyen, à savoir que la justice du Christ leur soit imputée. Par la justice imputée, ils seront purs et saints aux yeux de Dieu, alors qu'ils sont souillés à leurs propres yeux, et lorsqu'ils voient leurs manquements quotidiens, leurs infirmités et leurs corruptions, Dieu, lui, ne les verrait pas, mais il les verrait saints, justes et droits en son Fils. Quelle étrange doctrine est-ce là? Il faudrait que je présume que Dieu me verra en son Fils, Jésus-Christ, alors que je n'ai jamais été en Christ. Comment cela peut-il être? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si les choses anciennes demeurent encore, et si je ne suis pas devenu nouveau, présumerai-je que je suis en Christ et que Dieu me verra en son Fils? Lorsque les gens en viennent à user de l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils se verront comme exclus par leur incrédulité, que les nations ont absorbée. Et elle leur est douce comme le miel et le rayon de miel, c'est de quoi les habitants de la terre ont été enivrés par le vin de Sala prostituée de Babylone, fornication, ce vin étant la fausse promesse de vivre dans les convoitises et l'orgueil sans conséquence de la fureur de Dieu. Mais, béni soit Dieu, beaucoup l'ont déjà vomi. S'ils avaient fondé cette doctrine sur l'incapacité naturelle de l'homme, j'aurais dit Amen, car je sais que personne n'a, naturellement, l'aptitude et la puissance de délivrer sa propre âme du péché et de Satan. Cependant, lorsqu'ils fondent leur doctrine du péché perpétuel sur la puissance de Dieu, même si le Seigneur déploie son bras et révèle sa puissance, même s'ils en viennent à recevoir la grâce de Dieu, et qu'ils ne pourraient toujours pas être délivrés du péché par Dieu, cela a, au fond, un blasphème. La première mettait en cause la puissance de l'homme, mais celle-ci est l'incrédulité envers la puissance de Dieu Tout-Puissant, que le diable ait acquis sur nous une telle puissance que Dieu n'ait pas de puissance sur nous, ni ne puisse avoir puissance et domination sur nous, de sorte que, dans une nation entière, il ne puisse avoir un seul homme pour le servir. On pourrait dire beaucoup pour répondre à cela. Lorsque les hommes sont une fois disposés à servir Dieu, ils seront disposés à quitter le service du diable. Il n'y a pas d'autre moyen de répondre à ce bon désir que d'attendre de Dieu la révélation de sa puissance. Je prie Dieu que, lorsque vous viendrez à une réunion, vous puissiez dire « Seigneur, que ta puissance avance sur mon cœur, que ton bras se découvre et délivre-moi de la puissance et de la domination du péché », afin que certains puissent dire qu'ils sentent la puissance de Dieu dans une réunion. Certains diront « Je sens la puissance de Dieu agir sur mon cœur, afin d'ôter le péché et la transgression, et de me donner la victoire sur eux par le Seigneur Jésus-Christ ». S'ils sentent cette puissance de Dieu sur eux, il est de leur devoir d'y croire et de s'y confier. Si j'y crois, je dois en attendre les directives et croire que je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors la foi se manifestera en œuvre et apparaîtra comme une foi vivante. Vous vous souvenez peut-être de ce que disait l'apôtre Jacques. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Dès qu'un homme en vient à s'unir à la puissante puissance de Dieu, il sera capable de résister à la tentation. S'il se trouve en mauvaise compagnie, il la refusera et ne s'y conformera pas. Il trouvera alors quelque chose d'une puissance et d'une capacité à servir Dieu. Quoique n'étant pas parvenu à la perfection, il marche pourtant dans la voie de la sainteté et se presse en avant vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dira « Je me suis un peu approché davantage qu'auparavant de l'endroit où je désire être, de cette vie dans laquelle je veux vivre et mourir. Alors que la mort vienne quand il plaira à Dieu, elle sera la bienvenue. » Voilà la méchanceté de beaucoup dans le monde, ils ne veulent pas vivre une vie dans laquelle ils seraient disposés à mourir. Ils ne peuvent parvenir à une telle vie que s'il leur est donné de croire, car c'est le don de Dieu, ils doivent venir à leur gouverneur et conducteur, qui va devant, au don de Dieu, qui est la vie éternelle, alors que la mort vienne quand elle voudra, si j'ai le don de la vie éternelle. C'est une chose misérable de penser qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas saisi la vie éternelle. Elle est manifestée afin que nous la saisissions, il y a une main de la foi qui s'y joint. Quand un homme en vient à saisir la vie éternelle, cette vie le purifiera et le sanctifiera, du moins progressivement, jusqu'à ce qu'il soit entièrement sanctifié en corps, âme et esprit. C'est ce que l'apôtre écrit dans l'une de ses épîtres, « Votre salut est plus près que lorsque vous avez cru au commencement. Lorsqu'ils crurent d'abord, leur salut était assez loin. » Il décrit le salut comme la fin de leur foi et de leur espérance. Quand un homme en vient à être délivré de ses péchés, il servira Dieu sans crainte, mais quand un homme en vient à vivre par la foi, il vaincra, il est un bon soldat de Jésus-Christ, et il doit combattre vaillamment sous son étendard, jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire sur tous ses ennemis, alors son salut est beaucoup plus près que lorsqu'il crut au commencement. Je voudrais pouvoir en dire autant de quelques-uns d'entre vous, car je crains que votre salut ne soit plus éloigné. Certains vont ça et là en errant, comme des brebis sans berger, c'est ce à quoi mon esprit est exercé. Vous qui êtes des voyageurs vers le royaume de Dieu, c'est la merveilleuse grâce et miséricorde de Dieu que l'idée vous soit jamais venue de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ceux qui ont obtenu cette miséricorde de Dieu recevront et goûteront d'autres miséricordes, de meilleures miséricordes, car heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est là une miséricorde, mais il y en a une autre, ils seront rassasiés, ils seront satisfaits. Quand un homme en vient là, il doit prendre chaque jour sa croix et s'exercer au renoncement à soi. Mais s'il suit le Christ, il sera satisfait, il n'aura alors que paix et joie, il chantera alors louange et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et à l'agneau pour toujours. Nul ne peut comprendre la gloire réservée à ceux qui prennent leur croix et suivent le Christ, et qui aiment son apparition. C'est la plus grande bénédiction que Dieu donne à son peuple, il a envoyé son Fils Jésus pour nous bénir et nous détourner de nos iniquités. C'est une bénédiction en vérité, prenez garde de n'admettre aucun nouveau terme. N'imaginez pas amener Dieu Tout-Puissant à de nouveaux articles, les conditions ont déjà été déclarées et arrêtées. Si vous voulez obtenir la bénédiction, il faut que chacun de vous soit détourné de ses iniquités. Les conditions sont déjà établies. La loi de Dieu doit être écrite dans le cœur et dans les pensées intérieures, et vous devez vous attacher à cette puissance qui écrira la loi dans vos cœurs, et en marchant vers le royaume de Dieu, vous verrez la venue de ce royaume en vous. C'était la joie de mon âme de voir que le royaume de Christ serait établi dans mon cœur avant qu'il y fût établi. Alors je vis l'œuvre merveilleuse du Seigneur, et il se fit en moi un grand changement, quand le Seigneur voulut me sevrer du pain du monde, détacher mon cœur, et le sevrer des convoitises mondaines, des joies et des plaisirs du monde, et des modes, et de l'honneur et de la réputation du monde. Je dis que le Seigneur voulut me sevrer de ces choses, et m'amena à une sainte résignation, à lui abandonner mon cœur. Si j'ai de la joie, elle doit venir du Saint-Esprit. Si j'ai du plaisir, il doit être dans la présence de Dieu qui, au milieu de la multitude de mes pensées au-dedans de moi, a fait que ses consolations ont réjoui mon âme. Et s'il ne vous apporte pas de consolation, vous n'en aurez jamais, vous ne pouvez l'attendre tant que vous ne croyez pas. Et lorsque vous avez la foi, vous pouvez sentir le royaume de Dieu en vous. Il faut la nouvelle naissance, l'œuvre de la régénération, car à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut un passage de la mort à la vie. Il faut renverser l'ancien fondement et s'établir sur un nouveau fondement, sur Jésus-Christ, le rocher des siècles. Il faut une soumission à sa sainte puissance et à son gouvernement, autrement vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Beaucoup ont persévéré pendant de longues années dans une profession de foi, sans jamais en voir la beauté, et le moindre petit rien dans le monde les a détournés et entraînés loin. Ceci, cela, et d'autres plaisirs ont emporté leur cœur, ils ont vu la gloire du monde qui les a captivés. Mais ceux qui font profession de la vérité, et qui ont vu la beauté et la gloire du royaume de Christ, ils repoussent avec horreur la pensée de retourner au monde, car l'apôtre a dit qu'il leur est arrivé selon le vrai proverbe, « Le chien est retourné à son propre vomi, et la truie qui avait été lavée est retournée se vautrer dans la boue. Il eût mieux valu pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice qu'après l'avoir connue, de se détourner du saint commandement qui leur a été transmis. » Ils ont fait profession, ils étaient membres d'une église visible, et avaient la réputation de vivre, mais intérieurement ils étaient morts. La vue du royaume de Dieu n'est pas donnée à de tels, mais aux petits-enfants, qui ont une naissance divine, et qui désirent le lait pur de la parole, afin de croître par lui. Dieu a caché ces choses aux sages et aux prudents, et les a révélées aux petits-enfants. Je parle à ceux qui sont ici aujourd'hui, qui voudraient recevoir quelque bonté de Dieu, et qui désirent la connaissance de ses voies, et qui souhaitent que les mystères de son royaume vous soient révélés. Que vos esprits soient recueillis, et vous trouverez que les grandes choses qui concernent votre paix vous seront faites connaître. Nous en avons beaucoup parlé, mais je ne voudrais pas que vous le connaissiez seulement par nos paroles. Je voudrais que vous rentriez en vous-même pour voir si Dieu ne vous a pas accordé cette grâce et cette bénédiction. Si Dieu vous a donné la grâce, ne la changez pas en débauche, n'abusez pas de la grâce de Dieu. Que faites-vous lorsque la grâce de Dieu vous a convaincu que telle ou telle chose est un péché, et que si vous la faites, cela tournera à votre ruine? Osez-vous vous risquer à commettre le péché après en avoir été convaincu? Oh, prenez garde de faire outrage à l'Esprit de grâce et d'attrister le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Je souhaite que le poids de cette considération repose sur vous et qu'une sainte crainte et une sainte révérence de Dieu soient produites dans vos cœurs, afin que vous soyez gardés de péché contre Dieu. Vous savez qu'il y a un cri général contre le péché présomptueux, le péché commis contre la lumière. Pourquoi ne crierions-nous pas tous contre cela? C'est une chose des plus effrayantes pour quiconque de pécher contre sa connaissance et sa conviction. Si l'un de nous s'est rendu coupable d'avoir péché contre la lumière, qu'un tel dise « J'ai commis l'iniquité, je ne le ferai plus » et qu'il entre en alliance avec le Seigneur et dise « Ô Seigneur, dans la mesure où tu m'as révélé ta volonté, je lui obéirai, je prendrai plaisir à faire ta volonté, ô Dieu, quand bien même elle contrarierait ma propre volonté. Quoique je contrarie, je ne contrarierai pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel je puis être scellé pour le jour de la rédemption. » Je ne ferai jamais cela, quand bien même j'y risquerai mon principal intérêt dans le monde. Tel est le tempérament d'un vrai chrétien, et je prie Dieu de vous donner à tous cet esprit. Et maintenant, mes amis, vous qui désirez voir cette grande œuvre accomplie en vous-même, remettez toute l'œuvre à Dieu, et ne vous en tourmentez pas. Je suis certain que Dieu poursuivra sa propre œuvre, renversera le royaume du diable, réprimandera cet esprit impur qui s'est répandu sur toute la nation, et répandra abondamment son Saint-Esprit pour mener à bien une glorieuse réforme. Je crois avec certitude que Dieu le fera, d'après ce qu'il a opéré dans ma propre âme. Je ne sais pas quels instruments seront employés dans cette œuvre, je laisse cela au Seigneur, mais le royaume de Christ sera avancé, et il le sera extérieurement, et un balai de destruction emportera tous ses ennemis de la terre, et la colère de Dieu brûlera contre eux, mais il y a une obstination et une dureté de cœur qui ont pesé sur les nations du monde, et quelque chose s'est opposé en toute génération. Ceci est la prophétie de Crisp sur la fin de l'âge, lorsque le Seigneur détruit tout le mal hors de la terre, ne laissant que peu d'hommes encore en vie. Seuls ceux qui ont la lumière seront épargnés. Le Seigneur a dit, par les prophètes, que la justice se répandra sur la terre, et l'Apocalypse annonce comment cela arrivera. Pour que la justice se répande sur toute la terre, tous les pécheurs seront détruits. Mais le temps des grandes tribulations, annoncé par l'Apocalypse, donnera à certaines personnes la motivation de rechercher la grâce qui purifie le cœur et l'âme, qu'il a toujours offerte, mais que la chrétienté a transformée en chose impie. La chrétienté a changé l'Alliance, faisant du sang de Jésus un promoteur du mal, une excuse au péché, ce qu'Ésaïe disait devoir amener le Seigneur à dévorer la terre et à rendre l'homme aussi rare que l'or. Ce temps approche rapidement. Edward Burroughs eut une révélation semblable de cet événement mondial, décrite ainsi, « Les royaumes de ce monde doivent devenir les royaumes du Seigneur et de son Christ son onction dans ses seins. » Isaac Pennington rapporta aussi cette même prophétie dans sa « Protection de l'innocent », entrer dans la vie est le principe de l'Évangile, puis se répandre peu à peu jusqu'à avoir couvert la nation, puis de nation en nation jusqu'à ce que toute la terre soit levée, et pourtant il y a un état meilleur, dans lequel le Seigneur a déjà fait entrer certains, et que les nations doivent attendre et vers lequel elles doivent tendre et cheminer. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que nous pouvons tous bien dire que Christ est le sauveur de tous les hommes, mais surtout de ceux qui croient. Il a sauvé cette ville et cette nation des fléaux et de la vengeance qui planent sur nous. Depuis de nombreuses années, le Seigneur nous a épargnés, et il a attendu longtemps pour faire grâce, afin de voir si, enfin, nous nous tournerons vers lui. Combien de temps le médiateur intercédera en notre faveur? Nous ne le savons, il y a un temps où la longanimité de Dieu prend fin. Dieu a envoyé un fléau sur les nations qui nous entourent, et les flammes de sa colère se sont allumées sur elles, et la destruction les a atteintes. Combien tôt ce pourra être notre sort, nous l'ignorons. Tout notre argent et notre or, ainsi que notre vaillance et notre courage, ne pourront pas l'écarter si le Seigneur ne fait que souffler sur nous. C'est à la porte, il n'y a qu'un seul moyen de nous sauver, c'est de nous tourner vers le Seigneur, et de crier au Seigneur pour la continuation de ses miséricordes, de sa longanimité et de sa patience envers nous. Dans ce cri au Seigneur, unissons-nous tous, nous qui aimons la nation, et joignons nos ferventes supplications à cette œuvre, puisque le Seigneur a fait de nous les monuments de sa miséricorde et de sa bonté préservatrice. Nous avons été continuellement entourés de guerre et de sang, de flammes et de destruction, et le cri des orphelins s'est fait entendre depuis d'autres nations. Et tandis qu'elles ont été consumées par les flammes et inondées de torrents de sang, nous avons été assis sous nos propres vignes et figuiers, mais des jugements planent sur la nation, et s'ils tomberont ou non, le Seigneur le sait. Mais que ferons-nous, pour le bien de notre nation, de nos villes et de nos familles, sinon travailler chacun, dans la crainte de Dieu, à réformer notre vie ? Et prendre garde de ne pas pécher contre la lumière, de peur que nous ne mourions et ne périssions au milieu de ces terribles jugements qui planent sur nous. Détournons-nous de nos mauvaises voies et éloignons-nous de toute iniquité, afin que le royaume de Christ soit établi en nous-mêmes. Ce sont les justes dans la nation que le Seigneur regarde, et c'est à cause d'eux qu'il épargnera une nation. S'il y a parmi nous un peuple qui marche dans l'humilité et qui soupire et pleure à cause des abominations commises au milieu de nous, Dieu aura égard à eux. Et il écoutera les cris et les supplications d'un peuple qui prie. Amis, vous qui ne pouvez faire usage de l'épée et de la lance pour sauver une nation, vous pouvez faire du bien par vos prières et en vous tournant vers le Seigneur avec un cœur sans feinte et que votre sincérité paraisse devant lui. Si je prenais un livre de prières communes entre mes mains et priais avec toute la dévotion et la solennité possible, si je ne suis pas sincère, à quoi cela servirait-il, ou bien, si je prie sans livre, ou si je prie sans forme, ou si je rejette la forme que d'autres ont faite pour moi, en quoi cela serait-il utile? Mais le cri du pauvre, les soupirs de l'indigent, et la prière efficace et fervente du juste ont beaucoup contribué à sauver cette nation pendant de nombreuses années. C'est pourquoi je vous exhorte tous, comme vous aimez la nation, comme vous vous aimez vous-même, et vos familles et vos proches, ne péchez pas contre le Seigneur, car il établit maintenant la justice, l'équité et le droit, et cela prévaudra dans la nation. Dieu a voulu rassembler beaucoup de personnes qui étaient des ennemis et se sont maintenant détournées du péché pour se tourner vers Dieu, conduites par la vérité. Et c'est leur plus grande joie, maintenant qu'elles ne sont plus servantes du péché, mais qu'elles sont devenues servantes de Dieu. Maintenant la vérité prévaudra, et la justice avancera comme le soleil du matin, et nous espérons que le Seigneur nous fera miséricorde pour la gloire de son propre nom, bien que nous soyons un peuple indigne. Ce sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse si le royaume de Dieu est venu à nous, alors nous pourrons dire que notre prière a été exaucée. Nous avons souvent prié, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si la volonté de Dieu est faite, alors je ne peux plus faire ma propre volonté, alors je ne peux plus être entraîné par Satan, le diable aura peu de pouvoir si je fais la volonté de Dieu sur la terre, comme elle est faite au ciel, alors des louanges s'élèveront dans le cœur de tous ceux qui prennent plaisir à faire la volonté de Dieu, et Dieu poursuivra son œuvre pour la gloire de son propre nom, et pour la rédemption de son peuple, afin que Christ soit prêché pour le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Sermon XIX, le sacrifice agréable. Prononcé par Stephen Crisp à Gracious Street, le 3 juillet 1692. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service spirituel et votre culte. Rome 12, 1. Car si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir, mettez à mort les actions du corps, vous vivrez. Rome 8, 13. Faites donc mourir, mettez à mort les actions du corps qui appartiennent à la vie terrestre, fornication, impureté, passion déréglée, mauvais désir de la chair et convoitise qui est idolâtrie. Col 3, 5. Dépouillez-vous de votre ancienne nature qui dirigeait votre conduite, laquelle se corrompt par des convoitises et des désirs issus de l'illusion, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez la nature nouvellement créée de Christ, créée à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritable. F4, 22, 24. Tous ceux qui veulent adorer Dieu et se rassembler ensemble à cette fin ont besoin d'avoir dans l'esprit une grande révérence et dans leur âme une sainte crainte, afin que, lorsqu'ils entrent dans la maison du Seigneur et s'approchent du Dieu vivant, ils n'offrent pas le sacrifice des insensés, mais qu'ils offrent à Dieu ce qui peut lui être agréable. Car tout culte, toute religion, toutes offrandes et oblations qui ont jamais été offertes à Dieu par quelque peuple que ce soit, ont reçu un retour pour ceux qui offrent et pour les adorateurs, soit d'acceptation, soit de rejet. Beaucoup, vous le savez, ont été rejetés bien qu'ils aient offert, et beaucoup ont été acceptés de Dieu, et leurs offrandes ont été comme un parfum d'agréable odeur à ses narines. Et j'espère que nous sommes tous dans cette pensée. Nous serions heureux que notre culte, notre service et nos offrandes à Dieu soient acceptées à ses yeux, et que notre assemblée présente soit pour le mieux, et que chacun ait dans son sein une réponse de paix et d'acceptation. Mais cela ne peut jamais être, à moins que les hommes ne soient qualifiés et préparés lorsqu'ils s'approchent. Les adorateurs doivent être saints, il faut la crainte de Dieu et une révérence pour le grand Dieu dans leurs pensées, avant que les gens puissent lui offrir un sacrifice acceptable, comme l'a dit le saint apôtre, Hébreux 6. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, ce qui signifie qu'il doit y avoir une préparation dans l'esprit et le cœur de ceux qui veulent s'approcher de Dieu, ou accomplir quelque service ou culte pour Dieu. Ils doivent avoir la connaissance du Dieu qu'ils adorent, ils doivent d'abord savoir qu'il est, et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Voici une qualification pour les adorateurs, pour les personnes religieuses, puisqu'ils s'attendent, lorsqu'ils se réunissent, à trouver le Seigneur au milieu d'eux, ils doivent être qualifiés en conséquence, il doit y avoir une sainte crainte dans leurs pensées. Je suis dans la faveur de Dieu, j'ai une attente de Dieu qu'il ouvrira son trésor abondant et m'accordera quelques biens, autrement, à quoi bon les gens s'approchent-ils de Dieu? Astérisque, c'est parce qu'ils voudraient recevoir quelque chose de lui. Mais ils doivent venir dans une disposition humble de supplication, ils donnent la grâce aux humbles. Ce sont les hautains, les orgueilleux, ceux qui s'élèvent eux-mêmes, les repus et les rassasiés qui ne manquent de rien. Ceux-là, dit le prophète, le Seigneur les connaît de loin. Un homme ou une femme orgueilleux ne peuvent s'approcher de Dieu, le Seigneur les regarde de loin, et ils ne participent pas à ses consolations et bénédictions divines et célestes, ni aux conseils et instructions que l'esprit humble a en promesse et qu'il goûtera certainement, Dieu enseignera les humbles. Il instruira les doux dans sa voie, mais qu'est-ce que cela pour l'esprit hautain? Qu'est-ce que cela pour celui qui est élevé, présomptueux et enflé, qui se croit rassasié et ne manquer de rien, tandis qu'il nage dans les flots des plaisirs de ce monde, et ne goûte que les choses de la terre, les plaisirs d'un esprit sensuel? Ces personnes n'ont pas faim, et ainsi elles ne sont pas nourries, elles n'ont pas soif, et ainsi elles n'obtiennent jamais ce qui peut satisfaire l'âme. Notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé une bénédiction sur ceux qui ont faim et soif. Mais qu'est-ce que cela pour ceux qui sont rassasiés et ne manquent de rien? Astérisque, il y a une autre raison que la recherche d'une récompense, c'est de connaître et de plaire à votre Créateur, ou de trouver quelle voie permet de se conformer aux enseignements de Jésus que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Cela peut se faire sans aucune connaissance ni attente d'une récompense. Pourquoi un être créé ne voudrait-il pas voir comment il peut plaire à son Créateur, ou du moins connaître ce Créateur qui est infiniment plus grand que lui? Ainsi, mes amis, dans cette assemblée et dans toutes les autres assemblées religieuses, chacun doit prendre grand soin que sa venue ensemble pour attendre le Seigneur se fasse dans cette révérence et cette crainte, et dans cette espérance et cette attente de la part de Dieu, afin d'en être amélioré. Autrement, ils perdent tous leur peine comme car il voulut offrir à Dieu et offrir un sacrifice, mais il ne fut pas accepté parce que son esprit et son cœur n'étaient pas droits devant le Seigneur, son sacrifice fut rejeté. C'était avant qu'il n'eût tué son frère. Il portait une grande culpabilité avant qu'il n'eût tué son frère, il lui manquait la qualification de bien faire. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté, mais si tu ne fais pas bien, le péché est à ta porte. Il s'était engagé dans le mal, et un esprit mauvais empêcha son acceptation auprès de Dieu. Ainsi en est-il de tous les hommes et femmes dans le monde qui se mêlent de cultes religieux et de sacrifices à Dieu, s'ils se mêlent de faire le mal. Il faut détourner l'esprit du mal, du péché et de la corruption, et l'esprit doit se tourner vers quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu, avant même qu'ils puissent être acceptés. Vous savez que la doctrine générale de tous les protestants est que nous ne sommes acceptés de Dieu que par Jésus-Christ. Nous n'avons aucun moyen de plaire à Dieu, ni ne pouvons faire quoi que ce soit qui soit acceptable à ses yeux, sinon par un seul médiateur. Or, si je devais adorer Dieu ou accomplir quelques devoirs religieux sans égard et sans déférence pour le sentiment et la participation à la vertu et à la puissance de ce seul médiateur, comment pourrais-je être accepté? Et Dieu, dans son amour infini pour l'humanité, a voulu envoyer ce grand médiateur dans le monde afin que tout homme qui vient au monde participe à quelque chose de la vie et de la vertu de ce médiateur. Ainsi vous lisez, Jean 1, 4, 9, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et cela concerne les hommes qu'ils soient bons ou non, bons et mauvais, bien que tous les hommes soient mauvais par nature. Ainsi, bien qu'ils soient enfants de colère et héritiers de la damnation éternelle dans leur état naturel à cause du péché, pourtant ce seul médiateur, en qui cette lumière a resplendi, a envoyé sa lumière parmi les fils et les filles des hommes, c'est-à-dire la lumière des hommes, qui éclaire chacun. » Ainsi il y a une offre de quelque chose qui se présente à la vue de tout homme, une bonne offre, que s'il y applique son esprit, il peut recevoir le bien qui vient par Jésus-Christ. Il peut s'approcher de Dieu, si mauvais qu'il soit, il a quelque bien que Dieu a accordé aux hommes, bons et mauvais. Aucun homme n'est exclu, car il a quelque vérité en lui. Aucun homme n'est si impie qu'il ne sache ce qui est pur et saint, ce qu'il a repris, arrêté et convaincu de son impiété. Cela se présente à la vue de tout homme et de toute femme, et les appelle à la repentance. La grâce de Dieu est apparue à tous les hommes, apportant le salut, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises, et comment vivre sobrement, pieusement et justement dans le présent monde. Tite 2, 11-12. L'Évangile a été prêché à toute créature sous les cieux. Col 1, 23. Chaque homme a son jour de visitation de la part de Dieu. Même si un homme n'a jamais entendu parler de Christ, s'il cherche la lumière et obéit totalement à la lumière, qui est Christ, il lui sera montré qui est la lumière, et en la recevant, il peut être délivré de tout péché, ce qui est le salut. Or, si des hommes font montre et prétention d'adorer, sans avoir égard à la gloire de Dieu, comment peuvent-ils s'approcher de Dieu, ou Dieu s'approcher d'eux? Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si des gens se réunissent dans leur péché et leur méchanceté, s'ils ont un esprit léger et vain et entendent continuer dans la méchanceté et le péché, s'ils se réunissent, ils ne se réunissent pas au nom de Christ, mais au nom du diable. Pensant adorer Christ, ils adorent sans le savoir le diable, qui approuve les pécheurs, et il est au milieu d'eux, et il œuvre et règne dans le cœur des enfants de désobéissance. Ainsi voilà le fondement et la raison pour lesquelles beaucoup de réunions, à ce titre des gens qui pêchent encore sans remords ni espoir d'arrêter, ont été stériles quant au profit de leurs âmes, et les attentes des gens ont été déçues quant à leur salut, ils n'ont pas rencontré ce dans quoi se trouve la bénédiction, et à quoi la promesse est faite. La promesse n'est pas faite à des gens que le diable gouverne, il n'y a de promesse pour eux que celle d'une colère éternelle à exécuter sur eux, avec le diable et ses anges pour toute l'éternité, si vous pouvez appeler cela une promesse. La promesse de vie et de salut, consignée par les prophètes et les apôtres, c'est toujours appliqué à la semence qui est dans l'alliance avec Dieu. L'alliance consiste en ce que Dieu a dit à Abraham, Genèse 17:7, « J'établirai mon alliance entre toi et moi et ta descendance après toi, et ta descendance après toi dans leur génération pour une alliance éternelle, afin d'être ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. » L'alliance est faite à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire avec Christ Jésus le médiateur. C'est lui qui amène à Dieu ceux qui se confient en lui et viennent à lui. Celui qui vient à lui, il ne le rejettera point. Ceux qui ne viennent pas à Christ sont déjà rejetés. Tous les hommes, par nature, sont déjà rejetés. Si l'un d'eux doit être sauvé, c'est en venant à Christ, qui est capable de sauver parfaitement et d'établir la paix pour eux, et de faire de deux un seul homme nouveau, et d'établir la paix entre Dieu et l'âme. Il est nécessaire, pour tous ceux qui ont quelques sentiments de leur état et condition naturelle, et qui, selon la nature, n'ont aucun droit au royaume de Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. Par nature, ils ne peuvent prétendre à la justice et à la vie. Ils ne peuvent se réconcilier eux-mêmes avec Dieu par toutes leurs œuvres, dit le prophète Michée. Le Seigneur prendra-t-il plaisir à 1000 béliers, ou à 10 000 torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon corps pour le péché de mon âme? Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon. Et que demande de toi le Seigneur, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu? Ceux qui seront sauvés doivent saisir le salut par la voie et la méthode que le Seigneur Dieu du ciel et de la terre a prescrite. Il a prescrit une voie pour que chacun soit sauvé, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance et obtiennent la vie éternelle. Dieu a fait une voie qui convient à tous pareillement, aux milliers comme aux 10, et au monde entier comme un seul homme. Or la voie que Dieu a faite est de sortir de l'état dans lequel ils sont tombés, d'abandonner ce gouverneur qui règne dans le cœur des enfants de désobéissance, et de s'attacher à Christ, que Dieu a établi pour régner dans le cœur de chacun. Les gens dans la chrétienté diront qu'ils se sont attachés à Christ. N'espérez-vous pas être sauvés par Christ selon les termes de l'Alliance? Ce n'est pas dire « Seigneur, Seigneur », mais faire la volonté de Dieu. Les termes sont que tous les hommes doivent croire en Christ astérisque le croire le Fils éternel de Dieu, et par la puissance de cette foi qu'ils ont en lui, il vient régner sur eux, et ils deviennent soumis, c'est-à-dire obéissent à chacun de ses commandements à lui. Et si un croyant n'est pas soumis à Christ, il est le même qu'un incrédule. La circoncision ou l'incirconcision ne sert de rien, mais une nouvelle créature, et la foi qui agit par l'amour. Astérisque la croyance est la condition préalable initiale du salut. Mais la croyance initiale n'aboutit pas au salut, comme Paul le montre en s'adressant aux croyants des Églises. Maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru, Rome 13, 11. Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, Phil 2, 12. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5:8, car le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1:18. Pendant que vous êtes dans la croix intérieure du renoncement à soi, vous verrez le péché disparaître lentement de votre vie jusqu'à ce que vous soyez libérés du péché. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. 2 Corinthiens 7:10. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption, événement futur. Éphésiens 4:30. Paul s'adresse à des croyants de l'Église qui ne sont pas encore rachetés, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, envers ceux qui sont en train d'être sauvés. 2 Corinthiens 2:15. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. Hébreux 10:36. La volonté de Dieu est d'obéir totalement à Christ, qui vous délivrera du péché à la justice, à la pureté, à la sainteté et au royaume. Nous devenons participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Hébreux 3:14. Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour parvenir à la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Afin que vous ne soyez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux 6:11-12. Et Pierre fait écho au même message. Le salut n'est pas seulement croire ou avoir la foi, le salut est plutôt l'aboutissement du parcours obéissant de la foi. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit nécessaire de souffrir quelques afflictions à travers diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, bien qu'éprouvée par le feu, se trouve aboutir à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir maintenant, mais en croyant en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et pleine de gloire, recevant le terme de votre foi et le salut de vos âmes. 1 Pétrus 1:5-9. Désirez ardemment comme des nouveaux-nés le lait pur et spirituel, afin de croître jusqu'au salut. 1 Pétrus 2:2. L'alliance ne consiste pas en de simples paroles. Si je me conforme à tels articles, alors je suis chrétien. Si je crois tous les articles du credo, alors je suis chrétien et enfant de Dieu. Si un homme dit « je crois », son dire n'est pas suffisant. La condition de l'alliance que Dieu a faite, c'est que Christ règne et gouverne ses âmes qu'il présente à Dieu. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'il ne doit en présenter aucune à Dieu qui soit impure? Christ n'a pas mission de présenter à Dieu quelqu'un dans son impureté et sa méchanceté. Celui qui croit doit être lavé et purifié par lui. Si donc cela ne peut se faire qu'en régnant sur eux, s'ils se gouvernaient eux-mêmes, ils seraient souillés et seraient comme de l'eau dont le courant est obstrué par la saleté et la boue, ne coulant plus dans son lit naturel. Les gens commettent le péché lorsqu'ils se gouvernent eux-mêmes, mais lorsque Christ présente des personnes à Dieu, et lorsqu'elles viennent à être conduites par lui, elles sont lavées et purifiées. Lorsque l'apôtre décrit la vraie foi, il le fait par cette qualité et cette propriété, elle purifie le cœur. Toute autre foi n'est que l'espérance de l'hypocrite, mais la vraie foi est l'opération de Dieu, dit l'apôtre, et cette foi agit dans un cœur impur pour le purifier, et dans un cœur souillé pour le rendre pur. Si le cœur vient à être purifié, il s'ensuit que la conduite doit être pure aussi. Nul ne fait une mauvaise action ni ne prononce une mauvaise parole, si ce n'est à partir d'un mauvais cœur. Or, si la hache vient à être mise à la racine de l'arbre, et si la parole du Seigneur opère puissamment dans le cœur, quel que soit le mal qui s'y trouve, la hache mise à la racine de l'arbre l'abattra, la puissance de Dieu exécutera le jugement sur tout ce qui lui est contraire, Christ est saint, innocent sans tache, séparé du péché et des pécheurs, et bien qu'il étende sa vie et sa vertu à la vie et à l'âme de l'homme le plus méchant du monde, il ne s'unit jamais à leur impureté, mais demeure immaculé et sans tache dans le cœur des pires. Or cette puissance immaculée qui vient de Christ purifiera le cœur des hommes et les préservera des mauvaises pensées, paroles et actions. C'est la manifestation de l'unique médiateur par laquelle ils doivent être gouvernés, sinon ils ne peuvent être présentés sans tache à Dieu le Père. Il est nécessaire de venir un Sauveur avec plus que des mots et une simple profession. Nous devons venir à lui et nous unir à lui de tout cœur. Nous nous sommes tous unis au diable, il a suggéré, mu incité, et les gens ont suivi ses incitations et ses mouvements. Il n'y a pas d'homme qui ne soit sensible à un mouvement diabolique, pourquoi donc ne le serait-il pas d'un mouvement divin ? Bien que désormais il soit devenu redoutable de dire que nous sommes mus par l'Esprit de Christ, pourquoi pas par cet Esprit, aussi bien que par l'Esprit du méchant ? Nul ne doute qu'il y ait des mouvements du diable dont on est conscient, auxquels parfois on s'est associé, et auxquels parfois on a résisté. Quelle est la raison pour laquelle les hommes s'associeraient à de mauvais mouvements ? Il n'y a aucune raison juste. La raison pour laquelle vous et moi résistons au mouvement du diable, c'est que nous trouvons un autre mouvement transmis dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Si un homme a un mouvement pour commettre l'impureté, il a un autre mouvement pour se garder pur. S'il a un mouvement pour dire un mensonge, il a un autre mouvement pour dire la vérité. S'il y a deux moteurs en même temps, dans le même cœur, auxquels nous unirons-nous, me joindrai-je au mouvement du diable ? Si je trouve dans mon cœur quelque chose de l'amour de Dieu, cela me contraindra à prêter attention au bon mouvement et me fera résister aux mauvais mouvements. Ainsi, le fait d'être mu par l'Esprit de Dieu n'a rien de si étonnant. Il n'y a personne qui n'ait eu de mauvais mouvements en lui, et il a aussi des mouvements de l'Esprit de vérité. Ils ont rencontré des mouvements mauvais, et ils les ont trop admirés. Il est alors temps de se repentir. S'il y a une distinction entre un mouvement de l'Esprit de vérité et un mouvement de l'Esprit d'erreur, alors je puis dire hardiment que c'est notre devoir de nous unir à l'Esprit de vérité, et non à l'Esprit d'erreur. S'il y a en nous un désir d'être sauvé de la colère à venir, alors la voie pour être sauvé de la colère de Dieu est d'être sauvé de sa cause, ôter la cause et l'effet cesse. La cause de l'embrasement de la colère de Dieu contre l'homme, c'est le péché, car Dieu n'avait aucune colère contre l'homme lorsqu'il le créa, il l'a fait à son image, et lui a donné la puissance de demeurer dans cette sainteté et cette justice dans lesquelles il l'avait créé, mais il est tombé, et fut chassé du paradis, et un ange fut envoyé avec une épée flamboyante tournant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi l'homme tomba sous la colère de Dieu par son péché, mais comment apaiserai-je la colère de Dieu, en rompant avec le péché et en retournant à Dieu ? Objection, cela ressemble à une alliance des œuvres, disent certains. Dites-vous que je dois rompre avec le péché et ainsi échapper à la colère de Dieu. Outre les œuvres de la loi, les œuvres mortes accomplies par la volonté de l'homme, il existe une autre catégorie d'œuvres, les œuvres de foi, qui sont des œuvres que vous entendez Christ dans votre cœur, vous commander de faire, lorsque vous vous disposez à entendre ses commandements en attendant Dieu, c'est-à-dire en demeurant dans un silence humble, en écoutant sa voix et en veillant à ses révélations. Obéir aux commandements de Dieu que vous l'entendez vous adresser sont des œuvres opérantes de foi, que Paul a déclarées nécessaires, et au sujet desquelles Jacques a déclaré que la foi sans les œuvres est morte. Ce ne sont pas des œuvres que vous décidez de faire, ce sont des œuvres que Dieu veut que vous fassiez, et lorsque vous les faites, vous accomplissez sa volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce sont des œuvres de foi accomplies dans une obéissance aimante aux commandements que vous entendez Dieu vous dire du dedans de votre cœur. Ce sont aussi des œuvres de vie, commandées par la vie de Dieu, Christ, et les paroles qu'il vous dit vous communiquent la vie de Dieu. Jean 6, 63. Cherchez, attendez, veillez, écoutez, entendez, croyez ce que vous entendez ou ce qui vous est montré, et obéissez, et finalement vous aurez reçu tant de la vie de Dieu que vous serez nettoyés et purifiés. Alors Dieu vous dirigera vers des œuvres d'amour pour votre joie et pour sa gloire. Les premières œuvres que vous entendrez Dieu vous commander de faire sont des œuvres de repentance, à abandonner vos mauvaises habitudes, passions et plaisirs. C'est la fonction de la grâce, nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent monde, Tite 2, 12. Les commandements que vous l'entendez vous dire doivent être gardés, retenus et obéis. S'il vous ordonne de renoncer à quelque chose dans votre vie, vous devez continuer à y renoncer. Les commandements auxquels vous obéissez et que vous gardez sont alors écrits dans votre cœur et votre esprit, s'ajoutant à la loi intérieure déjà présente dans le cœur de tout homme. Ainsi l'Écriture s'accomplit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits compréhension intérieure. » Hébreux 10, 16. La grâce et le salut de Dieu sont accordés afin de créer un peuple consacré aux bonnes œuvres, lui qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité acte sans loi, péché, et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions en faisant de bonnes œuvres. F2 dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20-21 afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre. Col 1 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matt 5, 16 Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. Jean 3, 21 For it is God who brings forth in you, both the will to work and the works as commanded, according to his good pleasure. Phil 2, 13 Ainsi, si quelqu'un se purifie de ces choses iniquités, absence de loi, péché, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. 2 Tim 2, 21 Oui, je le fais, mais nul homme mortel ne peut rompre avec le péché autrement qu'en s'unissant au Médiateur. Il est l'auteur du salut éternel, en ce qu'il agite en nous pour nous faire désirer sa volonté et l'accomplir, et nous rend capables de travailler à notre propre salut. C'est le péché qui a chassé l'homme du paradis et attiré sur lui la colère de Dieu. Le péché est l'œuvre du diable. Or, afin que Christ soit pour nous un sauveur, il détruira l'œuvre du diable. C'est pour cela, dit l'apôtre, que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Or le diable n'était pas, simplement en lui-même, la destruction de l'homme, mais en le tentant de pécher, ce qui est l'œuvre du diable. Et Christ a été manifesté pour détruire l'œuvre du diable, cette propension au péché qui se trouve dans la nature de l'homme, et qui le fait se rebeller contre la pensée et la volonté de Dieu. Christ, le Fils éternel de Dieu, est devenu homme, il a pris la nature de l'homme, afin de ramener l'homme à son état premier, dans lequel il fut créé à l'image de Dieu. Or, comment le diable accomplit-il ses œuvres? Les accomplit-il par contrainte? Non, ils n'usent d'aucune force irrésistible. Mais Christ, le médiateur, agit-il par contrainte, avec une puissance et une force irrésistibles, pour ramener un homme à Dieu? Non, pas plus que le diable n'en a usé pour détourner l'homme de Dieu. L'homme aurait pu tenir ferme et demeurer dans son état d'innocence s'il l'avait voulu, il pouvait s'unir au mal et céder à la tentation du diable, s'il en avait l'envie, il savait que s'il livrait son esprit au mal, il serait ruiné, et cela s'est vérifié. L'homme était résolu à éprouver ce que c'était que de céder au diable et de lui obéir. Il leur dit que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils seraient comme des dieux, mais ils devinrent davantage comme le diable. Ils obtinrent cela en obéissant au diable, non que le diable eût exercé sur eux une force irrésistible. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais il ne fit que leur présenter cela, et par là il l'emporta, et ainsi advint la ruine du genre humain. Christ, le médiateur, afin de nous présenter à Dieu, vient lui-même et nous présente ses commandements. Et son commandement est que nous devons rompre avec cette servitude et cette sujétion dans lesquelles le diable a fait tomber l'homme, et qu'il doit y avoir une soumission à Christ. Nous devons croire en Christ, écouter la parole de Dieu, et rompre avec le péché, mais où est la puissance pour le faire? Si Dieu veut que je sois saint, qu'il me rende saint, s'il veut que je sois pur, qu'il me rende tel, et qu'il me donne la capacité de faire ce que, de moi-même, je ne peux faire, quand il plaira à Dieu de me donner la grâce et de captiver ma volonté, je deviendrai un bon chrétien. Or, voilà une grande erreur. Les gens s'imaginent qu'ils doivent attendre une puissance irrésistible pour les ramener à Dieu. Il y a une présentation d'amour et de miséricorde, des invitations pressantes, et la longanimité, la patience et la bonté de Dieu, qui attend longtemps les pécheurs. Dieu, qui a commandé à la lumière de briller hors des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, 2 Cor 4, 6. Que ferai-je de la lumière qui brille dans mon cœur? Je fermerai les yeux contre elle, j'aime les ténèbres plutôt que la lumière, et le mal plus que le bien. Cette lumière me conduira à la sainteté et à la justice, je me crêlerai avec elle. Elle vient me priver de mes plaisirs en ce monde, de mes joyeux compagnons, et de tout mon apparat, je ne l'écouterai pas. Hélas pour eux. Voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Dit notre Sauveur, si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils n'ont plus d'excuses pour leurs péchés. Voici l'Évangile prêché par Christ lui-même, voici la présentation d'une occasion pour tout homme et toute femme de revenir, mais je dois être sur la voie du retour, c'est-à-dire en m'unissant à ce qui me présente la sainteté, la justice, la chasteté et l'humilité, qui présente et offre à l'âme toutes les vertus et toutes les grâces qui sont en Christ, et lui montre la lumière et la grâce qui viennent de Christ. Parce que cette lumière et cette grâce se manifestent à mon âme, j'en ai une vision. En avez-vous une vision? Avez-vous vu en vous-même ou chez quelqu'un d'autre la pureté, l'humilité, la sobriété, la douceur, le renoncement à soi, et une disposition d'esprit céleste? Comment cela vous plaît-il? Cela ne me plaît pas du tout. J'aime avoir honneur et dignité, puissance et domination, et ma liberté dans le monde. Je n'aime pas cette douceur, cette humilité et cette rigueur de vie qui fait qu'un homme doit prendre garde à ce qu'il dit, mettre une sentinelle sur ses lèvres, et sur son cœur, sa langue et ses mains. Je n'aime pas ce genre de vie. Si vous n'aimez pas une bonne vie, quelqu'un l'aimera et y vivra, malgré toutes vos vaines vantardises, votre haine et votre mépris à son égard. Quand les gens viendront à vivre de cette manière, ils vous survivront, votre vie orgueilleuse, votre vie de règne et votre liberté dans le monde finiront par être limitées, la main de Dieu est contre cela, et il abaissera l'orgueil de l'homme. Quand vous viendrez à être couché sur votre lit de mort, attendant d'un moment à l'autre d'expirer et de rendre votre dernier souffle, alors vous direz « Oh, si j'avais été plus sérieux, et vécu davantage en chrétien, si j'avais vécu une vie pieuse, donné mon cœur à Dieu, et veillé davantage sur mes pensées, mes paroles et mes actions. J'ai tel ami qui a mieux vécu que moi, si j'avais vécu une telle vie comme lui, j'aurais eu plus de consolation, et ceux qui méprisent les pieux, bien qu'ils n'aiment pas une telle vie maintenant, l'aimeront alors. Mes amis, vous qui aimez vos âmes, et vous réunissez afin de devenir meilleurs, ayant l'attente et l'espérance de recevoir consolation et profit en vous réunissant. Je vous le dis comme serviteur de Dieu et comme quelqu'un qui vous aime, il ne s'écoulera que peu de temps, et vous souhaiterez avoir choisi la vie la plus sainte, la plus inoffensive, la plus innocente que vous ayez jamais vue vous-même, ou dont vous ayez entendu parler par qui que ce soit, et vous souhaiterez avoir été plus vigilant sur vos pensées, vos paroles et vos actions. Il y a un jour qui approche, où nous devrons rendre compte de tout ce que nous avons fait, soit bien soit mal. Vous devrez rendre compte de votre maudite débauche, de vos jurons, de vos mensonges et de vos passions désordonnées. Vous devrez rendre compte de toute pensée vaine et de toute parole oiseuse. Si cela doit certainement arriver, comment empêcherai-je ces paroles oiseuses et ces mauvaises actions? Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? Dit le psalmiste. En y prenant garde, selon ta parole, je ne suis pas comme ceux qui disent « voici ici et voici là ». Je ne dis pas « vous devez venir apprendre la vérité de moi », je dis plutôt « si vous la trouvez, vous devez la trouver en vous-même ». Et si je vis dans la vérité, cela ne vous servira à rien, et si je suis un homme saint, cela ne vous sanctifiera pas. Vous devez écouter la vérité qui parle en vous, vous pouvez l'entendre parler dans votre propre cœur, vous pouvez l'entendre vous appeler à la justice et à la sainteté, et si vous l'entendez, vous pouvez aussi l'accomplir, si vous le voulez, car il y a une puissance qui l'accompagne. Je sais assez, direz-vous, mais je ne peux pas faire ce que je sais, je n'en ai pas le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le pouvoir? Si j'avais le pouvoir, alors je m'abstiendrais de tout péché et romprais avec mes mauvaises voies, mais le diable met tel objet et tel autre sur mon chemin, et par ses tentations il m'attrape, je n'ai pas le pouvoir de résister. Voulez-vous que je fasse plus que je ne peux? Et tant que je n'ai pas le pouvoir, je suis excusé. Sans la puissance de Dieu agissant en vous, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe. Il y a trois sources par lesquelles la puissance de Dieu est libérée pour vous purifier. 1. La puissance dans la véritable espérance et l'Évangile. 2. La puissance dans la croix intérieure du renoncement à soi. Et 3. La puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance de Dieu agit en nous et nous garde par la foi pour le salut, c'est-à-dire pour être délivrés du péché. La puissance est libérée en portant la croix intérieure du renoncement à soi, qui est l'obéissance à ses paroles prononcées et entendues, tout en méditant le nom de Jésus et en s'attachant à l'espérance de la pureté, de l'union et du royaume. La combinaison de toutes permet d'accéder à la puissance changeante et infinie de Dieu pour agir en vous, vous nettoyer, vous purifier, vous délivrer de tout péché et vous conduire à l'union avec Dieu dans son royaume, dès ici-bas puis pour toujours. Voici à présent une ruse du diable pour garder encore les gens dans ses filets. Si les hommes étaient vrais envers eux-mêmes, ils ne resteraient pas longtemps sans puissance. Si vous êtes convaincu du mal de vos voies, et qu'il est de votre devoir de rompre avec le péché, une puissance vous est offerte. Si vous vous y unissez, vous pourrez vaincre toutes les tentations et abandonner votre péché. Je voudrais que vous éprouviez tous, que vous cherchiez et que vous voyiez si je dis vrai ou non. Je suis persuadé qu'il n'y a pas ici un homme ou une femme qui n'ait, à quelque moment, renoncé à une mauvaise action à laquelle il ou elle était tenté. Comment avez-vous été retenu? Parce que vous saviez que c'était une mauvaise action, vous n'avez pas osé la faire. Le diable n'avait pas un pouvoir coercitif pour vous y forcer. Je savais que c'était une chose mauvaise, et je me suis uni dans mon esprit à ce qui m'en détournait, et j'ai prié Dieu de me donner la force de m'en abstenir. Le diable vous tentait encore, qui vous a donc aidé contre la tentation? Dieu vous a retenu par sa grâce. Celui qui est présent en vous ne vous aidera-t-il pas? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comptez toujours sur lui, et il sera toujours prêt à vous aider, vous soutenir et vous fortifier, et vous serez préservé du péché à l'heure de la tentation. Considérez que tout pouvoir au ciel et sur la terre est donné à Christ, et s'il est capable de vous garder, ne tomberez-vous pas? Ceux qui viennent à moi, dit Christ, personne ne les arrachera de la main de mon Père. Mon Père est plus grand que tous. Si vous venez à Christ, il ne vous rejettera en aucune façon, et si vous comptez sur lui, il vous préservera, et nul ne pourra vous arracher de sa main. Si vous vous unissez à la vérité et à ce qui est saint, vous aurez la force et la capacité de résister à la tentation et de la vaincre. Et je puis le dire avec respect, Christ s'est lié à ceux qui se confient en lui. Ceux qui gardent la parole de ma patience, je les garderai à l'heure de la tentation. Si je continue d'attendre sa puissance, prête à m'aider, et que j'ai le désir d'être purifié et sanctifié, que la justice soit introduite dans mon âme, que mes yeux soient tournés vers Dieu et mes attentes vers lui, il opérera en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi les gens ont ici un fondement ferme pour leur foi, mais on ne peut avancer de la sorte sans porter une croix quotidienne. Beaucoup peuvent recevoir la vérité en parole, recevoir des doctrines et des principes, et cela avec joie, mais il n'y a pas de pratique de la sainteté et de la justice sans une croix quotidienne et le renoncement à soi. Il y en a beaucoup qui sont venus à la vérité, tant qu'elle tient en parole, mais quand il s'agit de quelque chose qu'ils doivent faire, de dire la vérité et de vivre dans la vérité, ils rencontrent tant de tentations du diable, tant de convoitis et de corruption, tant d'impiété en eux-mêmes, ils rencontrent de si mauvaises choses auxquelles leur âme s'unit et cède, qu'ils ne peuvent continuer dans les voies de la sainteté à moins de lever les yeux vers Jésus, d'avoir les regards sur leur Sauveur, de prendre sa croix et de le suivre. Quels que soient les reproches, les souffrances et les persécutions qu'ils endurent, ils doivent avoir une résolution pieuse de suivre le Seigneur Christ, et dire « J'obéirai à ses commandements, il régira et gouvernera ma vie et guidera mon chemin ». Quoi que ce soit qui se dresse sur ma route, je prendrai ma croix et je me renierai. Sans cela, il n'y a pas de vraie christianité au monde. Beaucoup semblent religieux et parlent de la vérité. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la vérité en notion, et en parlent avec grand zèle, mais ils ne savent pas comment vivre et marcher dans la vérité. Ils ne vivent pas avec droiture et honnêteté dans la vérité. Ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne vivent pas avec justice et honnêteté envers tous les hommes, et ne font pas aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Ils peuvent décrire comment parler et agir, pourquoi donc ne le font-ils pas? Ils se sont fait l'idée qu'ils sont au-dessus de la croix de Christ, et que le renoncement à soi est bien au-dessous d'eux. Les gens ne veulent pas vivre dans la vérité. C'est ce qui manque au monde entier. Si nous regardons autour de nous, nous trouverons beaucoup de gens illuminés. Il y a abondance de connaissances et d'intelligence chez ceux qui parlent, abondance de savoir et grand nombre d'hommes instruits. Pourquoi les serments? Les malédictions et toutes sortes de méchancetés coulant-ils dans les rues comme un fleuve? Il y a parmi nous de l'orgueil, de la colère, de l'envie, de la vengeance et de la violence, qui semblent devoir attirer sur nous la vengeance. Ils ont entendu, du haut des chairs, beaucoup de prédications sur la sainteté, l'humilité, la patience et la douceur, et ils ont entendu qu'un esprit doux et paisible est un ornement de grand prix. Les hommes ont entendu beaucoup de sermons contre l'orgueil, la profanation, l'ivrognerie et l'impureté, mais ils les ont entendus comme un conte qu'on raconte, sans s'en soucier beaucoup, et ils ont accordé peu de foi ou d'attention à ce qu'ils ont entendu sur ces choses. Pourquoi les gens sont-ils si méchants? La raison se résume finalement à ceci. Les hommes aiment les plaisirs plus qu'ils n'aiment Dieu, ils ne sont pas les serviteurs de Christ, mais servent de nombreuses convoitises et plaisirs, et sont emmenés captifs par le diable, à sa volonté, et ainsi ils continuent dans l'iniquité. Aucune loi ne peut les retenir ni les brider, quand la loi de Christ n'est pas écrite dans leur cœur, mais quand les hommes en viennent à voir la nécessité du renoncement à soi et de prendre la croix, cela produira une réforme. C'est à cela que je travaille, et tous les hommes et femmes de bien le feront. Il est temps de tenter une réforme. les maux de veine, les atours et l'orgueil ont été exaltés, pourquoi ne crierions-nous pas à la réforme, avant que la colère d'un Dieu provoqué ne s'embrase contre nous et que sa vengeance ne se déverse sur la nation? Nous devons réformer nos vies. Comment les hommes se réformeront-ils, direz-vous? En recevant la loi de Dieu au-dedans de leur cœur, loi pure, sainte et céleste, qui sera comme une lumière aux pieds des hommes et une lanterne sur leur sentier. Or, tant que les gens n'en viennent pas à cela, ils continueront dans le péché et l'iniquité jusqu'à être emportés par quelque jugement débordant et terrible. Ainsi donc, mes amis, dans la crainte de Dieu et par amour pour vous, je cherche à ce que vous soyez amenés à Dieu par Christ, afin que vous viviez dans l'amour et la crainte du Seigneur, et lorsque viendra pour vous l'heure de mourir, que vous ayez repos et paix pour vos âmes. Il n'y a pas de repos pour ceux qui font le mal, il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Les impies crient, paix, paix, et parlent de paix, mais il n'y a pas de paix pour eux, leur part sera tribulation, colère et angoisse. Cela viendra certainement sur quiconque fait le mal. Peu importe la religion à laquelle vous appartenez, si vous n'obéissez pas à la vérité, mais vivez dans l'injustice. Or donc, mes amis, mon exhortation à vous tous est de revenir à la vérité dans vos propres cœurs, et de le faire pendant que vous en avez le temps. Je ne cherche pas à persuader les gens d'aimer mon opinion, mais d'aimer la vérité de Dieu dans leur propre cœur, de l'aimer et de lui obéir, et vous ne pouvez le faire que si vous prenez la résolution de porter une croix quotidienne et d'être des disciples de Christ, qui est allé devant eux pour préparer une place à ceux qui sont ses vrais disciples. Alors il les présentera à Dieu comme saints, inoffensifs et sans souillure, car ceux-là sont héritiers de ce royaume éternel que Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Sermon Continued. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.